Vous écoutez RTL.
8h14, Manuel Valls, merci d'être resté avec nous pour discuter avec les auditeurs d'RTL et on va directement donner la parole à l'un d'entre eux. En l'occurrence, Alain, qui est chauffeur routier, nous appelle de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Bonjour Alain, le Premier ministre vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Monsieur.
Mon fils a fait des études pour devenir comptable, comme beaucoup de jeunes, il a obtenu son diplôme. Vous donnez des millions à des entreprises. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une loi pour obliger les entreprises à prendre des jeunes diplômés? Parce que la seule réponse qu'on lui fait depuis 2 ans, quand il donne son CV, quand il postule un emploi, c'est « vous n'avez pas d'expérience, je ne peux pas vous prendre ».
C'est malheureusement un cas de figure qu'on retrouve régulièrement. Si nous donnons des millions, des milliards d'ailleurs, si la nation consent d'ailleurs à donner 40 milliards aux entreprises pour baisser le coût du travail, pour baisser la fiscalité sur les entreprises qui a trop augmenté au cours de ces dernières années, et pas uniquement depuis 2012, c'est parce que nous voulons que ces entreprises soient plus compétitives et qu'elles puissent embaucher, mais qu'elles puissent aussi embaucher des jeunes qualifiés. Car au fond, il y a 2 problèmes souvent que nous rencontrons. Des jeunes qui sont au chômage, ou des salariés qui sont au chômage depuis longtemps, et parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ne trouvent pas d'emploi. Et de l'autre côté, des jeunes qui sont qualifiés, qui ont une formation, et qui n'arrivent pas à trouver l'emploi adapté à leur formation, à leur qualification. Ce qui peut poser parfois le problème de l'orientation dans les études, et notamment après le bac, ce qui doit amener parfois à privilégier l'alternance, l'apprentissage. Hier, à Solvay, à côté de Mulhouse, j'ai vu et j'ai rencontré de nombreux apprentis, notamment les apprentis qui avaient changé leur itinéraire d'orientation pour mieux adapter leur nouvelle formation à la réalité de l'entreprise.
Manuel Valls, la question que vous pose Alain, en fait, elle concerne les entreprises et il va plus loin. Il vous demande si d'une façon ou d'une autre, un gouvernement, et pourquoi pas le vôtre, peut forcer ou contraindre d'une façon ou d'une autre les entreprises à engager des jeunes. Alors après, on peut présenter les choses de façon plus souple, avec des mesures qui favorisent leur intégration à l'entreprise. C'est visiblement une grosse difficulté. On a eu de nombreux appels dans ce sens ce matin, avec parfois des parents qui nous parlaient de leurs enfants qui sont bac plus 5.
Mais pourquoi il y a autant d'appels? C'est parce qu'il y a une angoisse dans la société française sur l'avenir de la jeunesse. Le sentiment qu'on va vivre moins bien, que les enfants, malgré les études, ne vont pas trouver un travail. On ne peut pas obliger les entreprises. On peut pas, nous ne sommes pas dans une économie administrée. On peut inciter, on peut accompagner, on peut faire en sorte que notre système de formation soit mieux adapté à la réalité des entreprises et travaille avec ces entreprises pour permettre précisément ces embauches. Ce que j'ai vu encore une fois hier en Alsace, et c'est vrai aujourd'hui parce que ça va mieux à PSA, c'est vrai à Solvay, vous trouvez aujourd'hui, heureusement, des entreprises qui travaillent avec le système de formation, avec le soutien des régions. Si nous sommes en train de mobiliser avec Myriam El Khomri l'ensemble des partenaires sociaux et des régions sur la formation et l'apprentissage, c'est parce que nous souhaitons répondre à cette question angoissante des parents quant à l'avenir de leurs enfants.
Alain, vous l'avez compris, pas de mesures contraignantes, mais plutôt accompagner les entreprises françaises pour favoriser l'entrée des jeunes sur le marché. C'est ce que vient de vous dire le Premier ministre sur notre antenne. On donne maintenant la parole à Martine. Bonjour Martine.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être très courte. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je connais très bien le Pôle emploi puisque je suis inscrite au Pôle emploi depuis l'âge de mes 18 ans et j'en ai 53. Et j'ai fait l'erreur monumentale de travailler une saison dans un célèbre service public qui s'appelle La Poste. Et en fait, j'ai été employée en CDD pendant 8 ans. J'ai fini par partir puisque la situation était précaire, donc j'ai fait plein de formations, j'ai toujours trouvé du travail, mais jamais de CDI. Et j'ai servi comme receveur péager aussi pour l'automatisation des voies. Et en fait, je voulais savoir si sincèrement, le fait de baisser les allocations chômage va vraiment inciter les chômeurs à travailler, dans la mesure où moi, dans ma situation actuelle, je vais vous expliquer, j'ai un CDI de 7 heures par semaine, je distribue les journaux, donc je me lève très tôt, donc l'avenir m'appartient, mais je ne trouve pas d'autre travail et je demande que ça, de travailler. Et est-ce que vous savez que sur la totalité des chômeurs, il y en a la moitié qui, comme moi, ne touche pas d'indemnité? Donc est-ce que vous pensez sincèrement, ou est-ce que c'est de la naïveté de penser ça, que le fait de baisser les indemnités de chômage vont inciter les travailleurs à plus travailler dans la mesure où il n'y a pas d'emploi?
Le Premier ministre...
Cadeau fiscal, attendez, deux secondes, le cadeau fiscal des entreprises et tout l'allègement des prud'hommes, ce sont des lois qui vont favoriser les gros, mais qui au final, pour nous en bas, va avoir des retombées dramatiques.
Manuel Valls vous répond, Martine.
D'abord, vous avez raison de rappeler, et c'est utile, que la moitié de ceux qui sont au chômage, ou qui ont un travail partiel et qu'on retrouve dans d'autres catégories de chômage, mais qui ont en partie, qui sont en partie au chômage, ne sont pas indemnisés. C'est important de le rappeler parce qu'on a l'impression parfois que les chômeurs sont des nantis.
Durée moyenne 11 mois. Hein.
Et que les gens préfèrent rester au chômage. Non, ça n'est pas le cas. Personne n'est chômeur professionnel. Personne n'a envie de rester au chômage. C'est bon de le rappeler. Deuxièmement, il faut rappeler que la loi dont nous discutons ne prévoit pas la baisse des indemnités pour les demandeurs d'emploi. Ça, c'est une des discussions, c'est la discussion qui est en cours entre les partenaires sociaux pour ce qui concerne l'assurance chômage.
Vous avez raison de le rappeler, mais vous avez bien compris, monsieur le Premier ministre, que la sous-question de Martine, si je puis dire, c'est si l'on va effectivement vers une dégressivité, est-ce qu'on ne va pas pousser tout simplement ceux qui percevaient pas grand-chose vers la grande pauvreté? Et est-ce que ça les aide à retrouver un travail? Oui. On croit bien que la question est dans la réponse. Hein.
Oui, mais donc elle a fait et la question et la réponse, Martine, à juste titre. Ce qui m'intéresse, moi, dans la discussion qui s'ouvre entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage, c'est tout ce qui permet le retour à l'emploi. Pas tout ce qui est punitif, ce qui mettrait des demandeurs d'emploi dans la précarité, c'est comment on incite mieux au retour à l'emploi. Par les systèmes de formation, éventuellement en regardant de près la question de la dégressivité, mais tout ce qui permet le retour à l'emploi.
La dégressivité est une piste, c'est bien ce que vous venez de nous dire.
Ce n'est pas une piste du gouvernement, c'est une piste qui est mise sur la table dans la discussion qui a lieu entre les partenaires sociaux et qui ne rencontre pas, évidemment, l'approbation ou le soutien des syndicats.
C'est exactement ce que nous a dit Myriam El Khomri au micro d'Olivier Mazerolle il y a quelques jours à ce même micro. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, vous nous appelez du département du Rhône et de cette bonne ville de Lyon. On vous écoute.
Bonjour Monsieur Valls, bonjour Monsieur le ministre.
Bonjour Laurent.
Je suis chef d'entreprise, je suis président d'un groupe de touristes français que je viens de racheter aux Américains, le groupe Avas Voyage. Et une question pour moi très importante parce que votre réponse va conditionner beaucoup d'emplois. Vous faites une loi qui est pour nous exceptionnelle, qui est une très très bonne loi. Vous allez nous permettre d'engager du monde avec une sécurité et pour le salarié et pour le chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons peur d'engager parce qu'on ne sait pas ce qu'est notre carnet de commandes demain. Aujourd'hui, vous nous permettez d'engager des gens et de pouvoir, en cas de problème, parce que vous savez, un chef d'entreprise qui engage, il ne veut pas licencier, il veut garder son personnel. La formation coûte très cher, vous veut garder votre personnel. Vous nous permettez quand même, en cas de problème, de pouvoir, à un coût précis, de pouvoir vous servir de collaborateur à un coût précis. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Est-ce que vous irez quoi qu'il arrive dans cette loi, quelle que soit la pression sociale, vous irez jusqu'au bout ou pas? Si vous me dites que vous allez jusqu'au bout, moi, dans les 15 jours qui arrivent, j'engage 47 personnes.
Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous faites peser sur mes épaules, Laurent?
Oui, vous êtes Premier ministre.
Pour ces 47 personnes.
Et apparemment, vous l'avez voulu.
Oui, mais j'ai... Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu, c'est assumer les responsabilités. Donc, quand on assume les responsabilités, il faut aller jusqu'au bout. Alors, bien sûr, Laurent, il va y avoir des discussions avec les partenaires sociaux et au Parlement, mais notre définition du licenciement économique comme le fait qu'on lève les freins à l'embauche en réformant le barème des indemnités prud'homales, c'est deux éléments qui sont fondamentaux pour les entreprises.
C'est le principal, parce qu'on engage, on veut engager, mais on a peur.
Pourquoi
on a seulement
peur. Il faut le rappeler, les TPE et les PME hésite aujourd'hui à embaucher ou à embaucher même en CDI, de peur des conséquences d'une éventuelle rupture de contrat, si les choses ne se passent pas bien avec la salariée, ou s'il y a des problèmes pour l'entreprise, parce que la situation économique a évolué. Aujourd'hui, soit elle n'embauche pas, soit elle recourt au CDD. Et vous savez que 85% des embauches aujourd'hui se font sur CDD, non pas sur CDI. Ce qui fait peser, évidemment, une incertitude quant à l'avenir du salarié. Donc nous voulons, en levant les freins à l'embauche, en réformant le barème des indemnités prud'homales et en clarifiant la définition du licenciement économique, tout cela encadré, bien sûr, et dans un dialogue avec les partenaires sociaux, permettre à ces entrepreneurs, comme Laurent, d'aller plus loin, de pouvoir embaucher, d'avoir confiance et de plus avoir peur d'embaucher.
Vous lui dites allez-y, Laurent, embauchez.
Laurent, j'irai jusqu'au bout.
Merci beaucoup.
Vous venez aujourd'hui d'avoir plus de 40 emplois.
Bon, j'irai vérifier alors.
Vous vérifiez.
Merci d'être fidèle à l'écoute d'RTL, Laurent. On donne maintenant la parole à Jean-Marc qui nous appelle de Châteauroux dans le département de l'Indre. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Le Premier ministre vous écoute.
Eh bien voilà, moi je suis demandeur d'emploi, j'ai 59 ans. Je suis indemnisé au revenu de solidarité active. Je n'ai pas de voiture et pas de moyen de transport. Et est-ce qu'il ne serait pas judicieux de permettre aux demandeurs d'emploi non indemnisés de voyager gratuitement dans les bus et les trains pour aller se présenter à des places dans les endroits où on embauche, notamment pour les saisonniers, pour... Enfin voilà. Et puis, je n'ai pas d'Internet, donc je vais maintenant à Pôle emploi tous les matins parce que c'est fermé tous les après-midi pour permettre de sélectionner des stagiaires pour des formations, donc ce que je comprends parfaitement, mais c'est assez compliqué d'aller le matin à Pôle emploi et puis pouvoir consulter les ordinateurs pour avoir les places, etc.
Bien sûr. Alors, il y a un aspect assez dramatique dans votre question. C'est quand on est au RSA, tout simplement, comment on fait pour chercher du boulot si on ne peut pas circuler? Est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge à ce niveau-là? C'est la question que vous pose Jean-Marc, monsieur le Premier ministre.
Cette question, elle est touchante. Elle nous bouleverse parce que ce n'est pas la réalité uniquement d'un homme qui est décrite, mais c'est celle que vivent aussi les hommes, des femmes, beaucoup de nos concitoyens. Donc, il faut y être plus qu'attentif. L'occasion hier de la visite d'un pôle emploi à Mulhouse, j'ai vu et rencontré notamment des jeunes qui sont là dans le cadre du service civique, qui accompagnent des demandeurs d'emploi, souvent plus âgés, pour les former notamment à l'informatique, pour les former au numérique, pour leur permettre de surfer sur Internet, ce qui est bien sûr un atout supplémentaire pour trouver de l'emploi. Pôle emploi est ouvert le matin, et l'après-midi, c'est sur rendez-vous, parce qu'il faut aussi sortir, pardon de le dire, d'un certain nombre de clichés. Donc, il y a, à travers la mobilisation de Pôle emploi, une réponse sur ces questions de formation. Et puis, les collectivités territoriales, je pense aux régions, parce que c'est elles qui ont en charge la tarification des transports, certaines l'ont fait déjà, peuvent prendre des dispositions qui permettent la gratuité pour les chômeurs qui se trouvent en très grande difficulté parce qu'ils n'ont pas de...
Donc, à Jean-Marc, vous dites, c'est le problème de votre région. En tout cas, c'est à elle de faire l'effort, si elle doit vous aider. Je vous ai bien compris.
Bien sûr.
Mais non.
Jean-Marc ?
Non. Oui, non, en fait, c'est pas le problème de la région. C'est le problème de très, très grand nombre de gens qui sont pas indemnisés et qui ne peuvent pas aller chercher un emploi, même s'il faut se déplacer dans toute la France. Il y a des trains qui circulent à vide tous les jours. Bon, bien sûr, on peut ne pas permettre aux gens de se voyager le week-end pour partir en loisir, mais pour chercher un emploi à la semaine, ce serait quand même génial que les chômeurs avec une carte de Pôle emploi puissent monter dans un train pour aller se présenter à un poste.
Alors, vous
essayez d'en trouver un.
On a compris. C'est envisageable ou ça
n'est pas ? Il y a des dispositifs prévus par les conseils régionaux qui permettent la gratuité pour les chômeurs, pour ceux qui doivent pointer à Pôle emploi.
Et on va continuer à vérifier tout ça, Jean-Marc, et on se tournera vers vous pour vous donner les infos s'il le faut. Je m'y engage. Bonjour, Eric.
Bonjour, Monsieur Calvi. Bonjour, Monsieur Vaz.
Bonjour.
Alors, écoutez, Monsieur Vaz, je vous ai écouté durant l'interview avec Monsieur Madrol. Vous avez plusieurs fois répété que vous étiez dans la réalité, dans l'action. Et ma question va porter sur les migrants et notamment sur leur déplacement de Calais. Moi, mon sentiment, c'est qu'on tergiverse beaucoup. La dernière nouveauté, c'est qu'on ne va plus les déplacer, on va tenter de les persuader de se déplacer, ce qui est quand même différent. Et ce qui me fait peur, c'est que déjà, avec 3000 migrants à Calais, on n'arrive pas à trouver de solution. Et alors, comment va-t-on faire quand les centaines de milliers de réfugiés qui sont aux frontières, notamment de la Grèce ou des autres pays, vont arriver en Europe et notamment en France? Comment va-t-on faire si déjà maintenant on ne s'en sort pas?
Manuel Valls vous répond.
Il faut apporter une réponse humanitaire à cette situation de Calais ou à Grande-Synthe, en mettant à l'abri ces personnes et dans des conditions humaines. Donc c'est toute l'action qui est actuellement menée par la préfète du Pas-de-Calais sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Donc nous sommes en train d'évacuer avec méthode, avec le temps nécessaire, ces campements parce que nous ne pouvons pas accepter les conditions terribles dans lesquelles vivent ces migrants qui sont indignes. Nous ne pouvons pas accepter de faire en sorte qu'un bidonville continue à ainsi être érigé aux portes de Calais.
Est-ce que le Premier ministre de la France connaît le nombre de migrants qui se trouvent à Calais ? On est dans une situation incroyable ce matin, on l'évoquait sur l'antenne d'RTL. Le préfet, la préfète nous dit ils sont 1000, les associations nous répondent ils sont au minimum 3450, dont 300 mineurs. Dans la zone sud, est-ce que vous connaissez le chiffre, monsieur le Premier ministre ?
Mais le ministre de l'Intérieur a déjà eu l'occasion de s'exprimer et il a donné les chiffres qui sont celles que vous venez de rappeler, qui sont ceux que vous venez de rappeler, qui ont été donnés par la préfète. Nous sommes en train de créer les conditions d'une mise en place d'abris solides à l'épreuve des intempéries et 1200 personnes y ont déjà été accueillies. Et puis, nous faisons des propositions d'hébergement pour les migrants qui renoncent à franchir la frontière, puisque s'il y a ce problème à Calais, c'est parce qu'ils souhaitent aller en Grande-Bretagne, qui souhaitent demander l'asile ailleurs en France, et plus de 2700 en ont déjà bénéficié. Donc nous sommes en train de baisser progressivement, bien sûr, le nombre de migrants qui sont sur Calais ou sur Grande-Synthe.
J'en profite pour vous poser une question sur les Britanniques. Est-ce qu'on peut continuer à faire l'Europe sans les Anglais ? On n'a pas eu besoin d'eux pour faire l'euro.
Oui, mais on a eu besoin d'eux pour gagner la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a besoin d'eux pour lutter contre le terrorisme. Et il faut toujours regarder avec attention le fait que l'histoire, elle est tragique. Elle peut connaître des périodes, et nous en connaissons une particulièrement difficile. Et dans le monde, alors que l'Union européenne est un exemple, voir des pays, ou un pays aussi important que la Grande-Bretagne, quitter l'Union européenne, oui, moi je pense que c'est une mauvaise chose pour les Britanniques eux-mêmes, mais aussi pour l'Europe. C'est pour cela qu'avec le président de la République, nous étions battus pour que la Grèce reste dans la zone euro. Parce que nous ne voulions pas qu'un pays quitte cette zone euro. Et bien là, c'est d'une certaine manière, dans des conditions bien sûr différentes, la même chose. Voir un pays aussi important que la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne, c'est un signe qui est donné d'affaiblissement de l'Europe et de dislocation de cette Union européenne.
Nous avons besoin, par définition, d'une équipe de combat pour affronter les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui dans ce pays, dans un monde compliqué et dans une Europe qui est perturbée. Vous venez de, pendant près d'une heure, de débattre sur l'antenne d'RTL. On s'interroge sur, on va dire, l'harmonie qui règne au sein de votre équipe ministérielle aujourd'hui. Nos confrères du Parisien citent ce matin le mot de détestation dans vos rapports avec Emmanuel Macron. Vous avez comme ministre Jean-Marc Ayrault, qui fut votre Premier ministre, et on se dit que c'est peut-être tout simplement humainement compliqué à gérer. Qu'avez-vous à dire de cette situation ?
D'abord, quand on lit la presse, on découvre des choses étonnantes. Et tout ce qui est dit sur les relations, les liens qui existent entre Emmanuel Macron et moi, c'est faux. C'est entièrement faux. C'est assez étonnant. Mais au-delà de cela...
Il n'y a aucun problème avec Emmanuel Macron ?
Non. J'ai la chance d'avoir un ministre de l'économie jeune, talentueux, qui connaît l'entreprise et qui veut réformer. Et nous partageons ce même goût, cette même volonté de la réforme. Avoir Jean-Marc Ayrault au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères, mais pourquoi je m'en plaindrais ? Mais moi, je ne suis jamais dans la détestation et encore moins dans la querelle de personne. J'ai en charge l'animation d'une équipe. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette équipe, c'est la mission que le président de la République m'a confiée, travaille au service de la France. Bien sûr qu'il peut y avoir des frictions entre des personnalités qui sont par ailleurs de fortes personnalités.
Ah, donc elles existent.
Oui. Non, mais tant mieux, non, mais dans un gouvernement, mais dans n'importe quelle équipe, j'imagine que c'est même le cas ici à RTL.
Ça doit pouvoir arriver.
Tant mieux, c'est normal. Mais je préfère avoir dans mon équipe des personnalités fortes, reconnues, solides. Écoutez, moi, avoir Jean-Yves Le Drian à la Défense, Bernard Cazeneuve à la Sécurité à l'Intérieur, c'est un plus. Avoir des personnalités confirmées aux affaires étrangères comme Jean-Marc Ayrault ou Ségolène Royal à l'écologie. C'est pourquoi je m'en plaindrais.
En vous écoutant, je me demandais si ce n'était pas une équipe de campagne, vous voyez.
Non. Mais on est toujours forcément en campagne. Mais moi, je suis en campagne pour la France et pour les Français. C'est aujourd'hui la seule campagne que nous devons mener, c'est celle-ci. Pour l'emploi, contre le chômage, pour préparer la France aux grands défis du monde.
Merci Manuel Valls d'être venu ce matin passer la matinée avec nous sur RTL et d'avoir répondu à nos auditeurs après avoir répondu à Olivier Mazerolle et François Langlais. Bonne journée à vous.
Merci.
Bon travail.